Chapitre 2e, sur le mur. Le roi des détectives me fit prendre place dans une automobile qui m'emmena vers Melun. Lui, avec Prosper et Julot, il partit à bicyclette. Seulement, il ne prit pas la route ordinaire. Il s'engagea sur le pont, gagna les Chartrettes et rapidement roula vers Melun par les sentiers courant en pleine campagne et à travers bois, sur la rive droite de la Seine. Ses ennemis ne devaient pas le guetter de ce côté. Il put sans encombre arriver à Melun. J'ai dit que Julot était un gymnasiarque admirable. Il devait, en cette occasion, utiliser ses talents. Le problème, qui se présentait maintenant, pour être très simple, n'en était pas moins très compliqué. Le problème était celui-ci. Étant donné une maison qu'on suppose être celle qu'on veut découvrir, comment reconnaître que c'est bien cette maison et comment non seulement y pénétrer, mais aussi en sortir sans donner l'alarme, sans courir de danger? Le moyen le plus simple, le moyen habituel est de pénétrer par la porte. Sans doute, mais ici la porte était condamnée. On ne pouvait espérer la forcer, l'ouvrir sans un gros travail, sans une longue et bruyante attaque. Quant à pénétrer par les fenêtres, il n'y fallait pas songer davantage. Pas plus qu'à essayer de rentrer par ruse, en se déguisant en plombier, en égouttier, en gazier, en télégraphiste, pas plus que par surprise. Un moment, à vrai dire, on se demanda s'il ne serait pas bon de se servir du secret que l'on connaissait. En frappant à la porte de fer les quelques coups dans l'ordre convenu, on pouvait en vérité faire ouvrir la porte par le surveillant de l'intérieur. La porte entr'ouverte seulement, on eût placé une cale qui eût empêché de la fermer quand ce même surveillant aurait reconnu la supercherie. Mais c'était un jeu dangereux et peu sûr. « Nous ferions chou blanc, mes amis, » dit Martin Dumas. « Parce que nous connaissons bien un signal qui ouvre cette porte. »« Oui, chef. » »« Mais rien ne nous dit qu'il n'y a pas plusieurs signaux pour ouvrir la porte, et que ces signaux diffèrent de jour en jour et ne soient employés à tour de rôle à jour régulier. » C'était juste. On abandonna donc cette idée. Ce fut Julot alors qui proposa l'escalade pure et simple, l'escalade par le mur du parc. Le vieux mur élevé, que dépassaient les hauts arbres, selon les indications de la fameuse carte postale. Comme il n'y avait pas d'autre moyen pratique, Martin Dumas se décida pour celui-là. Nous étions donc dans la rue sombre, déserte, dont le mur formait un des côtés. À chaque bout de la rue, des hommes de Martin Dumas montaient la garde. « Soyons bons cambrioleurs, » avait-il dit. Une légère échelle en bambou qui se pliait en plusieurs morceaux fut dressée contre le mur haut de 10 mètres environ. Martin Dumas assuma l'honneur périlleux de monter le premier. Ce ne fut pas sans une grande émotion que nous vîmes grimper le roi des détectives. Il se pouvait que de l'autre côté du mur, un homme aux aguets se tint en attente. Car rien ne nous certifiait également que les hommes du commandant, de leur côté, n'étaient pas prévenus de notre tentative et ne nous attendaient pas pour nous surprendre à notre tour. Mais nous avions Martin Dumas, et c'était la prudence même quand ce n'était pas l'imprudence extrême. Ici, il ne s'engageait pas seul et n'allait pas commettre une de ses folies habituelles. Arrivé au bout de l'échelle, Martin Dumas ne risqua pas la tête de l'autre côté du mur. Il éleva une sorte de canne qu'il tenait à la main et dont il ne s'était pas démuni pour monter. Cette canne, il la fit dépasser le mur et il plaqua son œil à l'extrémité qu'il tenait à la main. Je compris, cette canne était munie d'un appareil optique, d'un viseur, comme les torpilleurs sous-marins en emploi dans leur périscope. Un périscope. Martin Dumas, sans risquer la tête, sans se mettre dans l'éventualité de recevoir un coup mortel, pouvait, par le moyen de cet ingénieux appareil, voir sans aucun danger, sans rien exposer de lui-même, ce qui se passait de l'autre côté du mur. Rassuré, sans doute, il monta encore et finit par dépasser le mur. Pendant un long moment, il examina, il étudia, il écouta. Ayant acquis la certitude que rien de suspect ne se trouvait dans le jardin, il redescendit. « On peut y aller, » dit-il. « Personne. » Julot monta à son tour à l'échelle de bambou. Julot portait comme un gros paquet une échelle de corde qu'il devait accrocher à la crête du mur. Ce mur était garni sur son arête de morceaux de verre. Contre les cambrioleurs, ces morceaux de verre sont une arme de défense plus que ridicule. Julot, en effet, jeta sur le mur un solide tapis de jute et forma une sorte de selle sur la crête qui couvrit les morceaux de verre et les mit dans l'impossibilité de blesser. En même temps, tout à son aise, il accrocha par 2 crampons de fer l'échelle de corde qu'il déroula ensuite de l'autre côté. Il descendit dans le parc et disparut. Ce fut pour nous un moment d'anxiété. Martin Numa était remonté à l'échelle de bambou et suivait les opérations de son homme dans le parc. Peu après, il fit un signe. « Allons, » me dit Prosper, « allons, à nous. » Il fit passer d'abord à Martin Numa une sorte de planchette articulée au bout d'un bâton, dont il me fut sur le moment impossible de savoir la destination, l'emploi, l'usage. Peu après, nous montions tous à l'échelle de bambou. De ce côté, un homme se tenait avec une lampe électrique. Il demeura à cheval sur le mur, à même la selle de jute, sur les morceaux de verre. C'était le veilleur qui demeurait en communication avec les hommes du parc et de la rue. En outre, la lampe devait servir, en cas de retour prompt, à indiquer la route à Martin Numa, à lui montrer dans la nuit le point où se trouvait l'échelle, et faciliter le retour, l'ascension, la fuite de tous les hommes engagés dans l'expédition. Maintenant, nous nous avançons dans le parc. Mais nous devions nous tenir l'un derrière l'autre, et mettre exactement le pied où le premier, le chef de file, mettait le sien. Car il était plus que certain que le parc se trouvait défendu par des pieds jaloux, par des chausse-trappes, par d'autres moyens que nous ne soupçonnions pas, qu'on ne devait pas apercevoir. Et ce n'était pas le moment de tomber ridiculement dans un de ces pièges et de finir de cette façon une expédition qui s'annonçait si bien. Je compris alors l'emploi du bâton à planchette. Martin Numa s'en servait, lui qui ouvrait la marche. Il appuyait à terre avant de poser le pied et faisait pression. Ainsi, il aurait fait partir un piège ou tâter le creux d'une trappe. Quand Martin Numa s'était rendu compte que rien ne se trouvait sous la planchette, il posait le pied et avançait. Nous faisions de même. De la sorte, nous pûmes gagner la maison. Dans la demi-clarté, elle apparaissait triste, fermée et silencieuse. Abritée derrière le dernier massif, Martin Numa l'étudiait, cherchait à en deviner les êtres. Ce silence, cette absence de lumière, ne le rassurait pas trop. Il redoutait les maisons trop silencieuses, où on semble trop bien dormir, ce sont celles où l'on veille. Autre question, y avait-il des chiens? Martin Numa croyait pouvoir dire que non, il n'y en avait pas. Comment avait-il pu acquérir cette certitude? De la façon la plus simple. Dans la journée, Prosper était passé criant « Tondeur, tond les chiens, coupe les oreilles !» Il n'est pas de chien à tondre ou non qui n'aboie en entendant le terrible tondeur. Aucun n'avait dans le parc donné de la voix. Cela ne suffit pas à Prosper. Il envoya après lui Julot. Julot fut un mendiant qui parcourut la rue, jouant de la clarinette. Il tirait de son instrument des sons lamentables, nasillards, pleurnichards, et il insistait sur certaines notes spéciales qui, très désagréables aux oreilles des chiens, arrachent des hurlements. Julot, pas plus que Prosper, n'entendit aboyer. Donc on pouvait conclure qu'il n'y avait pas de chiens, à moins qu'on ne les tînt dans la cave. Mais dans ce cas, on les aurait vus apparaître déjà, car la nuit, les chiens qu'on tient dans une cave n'ont aucune raison d'être. « Marchons, » dit Martin Numa, au bout d'un moment. « Allons. » Maintenant, on arrivait au gravier qui s'étendait devant la maison. Ici, aucun danger de pieds jaloux ou d'autres engins. Martin Numa et Prosper s'élancèrent vers la maison. Ils s'attaquèrent avec une adresse, une dextérité, une promptitude que leur eurent envié les plus habiles cambrioleurs à l'un des volets qui fermait la porte-fenêtre. Bientôt, le volet attaqué tourna sur lui-même, tout doucement, sans faire le moindre bruit. Derrière le volet ouvert, apparut la croisée fenêtre. Martin Numa opéra un travail du même genre, et de même, silencieusement, la croisée fenêtre s'ouvrit à son tour. Il n'y avait plus qu'à pénétrer dans la maison. Mais Martin Numa, quand il voulait prendre des précautions, les prenait admirablement, n'en négligeait aucune. Tout autre, à sa place, ayant vu lui ouvert, serait entré, pas lui. Ouvrir une porte, on l'a dit souvent, ce n'est rien. C'est pénétrer dans la maison qui est dangereux. Martin Numa et ses hommes, ayant doucement ouvert la porte-fenêtre, au lieu d'entrer immédiatement dans la maison, se tinrent plaqués contre la muraille, écoutant, étudiant. Puis Martin Numa retira son veston. La doublure de ce veston était grise, très apparente dans la nuit. Il enroula le veston autour du bâton qu'il avait conservé, de façon à mettre la doublure à l'extérieur. Puis il passa cette espèce de mannequin par la porte entrouverte. Il le retira et le rentra de nouveau, le portant de chaque côté de la porte. C'est ainsi qu'opèrent les Arabes quand ils pénètrent dans une maison par le mur dans lequel, à leur habitude, ils ont percé un trou. Ils passent ainsi tout d'abord un mannequin. Si par hasard leur travail de perceur de muraille a été entendu, que l'on soit à l'affût derrière le mur avec un sabre ou un revolver, L'énervement, la surprise font que le plus souvent, malgré soi, on frappe sur ce mannequin ou on tire sur ses chiffons. Les voleurs avertis s'empressent de déguerpir. Martin Humain usa du stratagème des cambrioleurs arabes. Son mannequin n'ayant pas été accueilli par un coup de sabre, d'épée ou de revolver, il put penser que derrière le mur personne ne se trouvait. Alors il revêtit promptement son veston, puis il prit son élan et bondit dans la pièce. C'était un moyen prompt, sûr, de déjouer le coup. Pour le cas où le stratagème du mannequin étant connu, on attendait l'homme après le mannequin. Ce bond, ce saut, devait dérouter celui qui se tenait à l'affût. Martin Humain et ses hommes portaient des chaussures qui ne font pas de bruit, qui ne glissent pas et ne laissent pas de traces sur le sol. Moi-même, j'étais équipé de la sorte. Après, Martin Humain, Prosper, puis Julot entrèrent dans la pièce de la même façon, par un bond, et je vous garantis que celui de Julot fut merveilleux. Puis ils disparurent dans le noir. Et je demeurai dans l'ombre du massif, avec les deux hommes de Martin Humain qui attendaient, veillaient, prêts à accourir au premier appel. En somme, Martin Humain rendait au commandant la monnaie de sa pièce. Il refaisait chez lui ce que le commandant avait tenté à la villa de nos amis. Quel allait être son sort? J'avoue que j'étais dans une anxiété extrême. J'ai passé là un moment terriblement poignant. Pour moi-même, je ne craignais rien. Mais pour eux, pour lui, pour cet homme admirable que je venais de voir disparaître d'un bond, entrer dans le noir de cette immense pièce, comme s'il avait fait un saut dans un abîme. Au bout d'un assez long moment, d'un espace de temps qu'il me fut impossible d'évaluer, je vis apparaître Julot. Julot marchait dans le jardin tout bonnement, tout tranquillement, comme s'il se trouvait dans une villa que n'entourait aucun mystère. Il vint à nous et en riant, il nous dit « Ça y est ». « Qu'est-ce qui y est ?» lui demandai-je. « Les peintres sont libérés. Les hommes du commandant sont endormis. » Il ajouta en riant « Nous sommes chez nous. » Selon l'ordre de Martin Humain, il me dit de le suivre. Me prenant la main, il me conduisit à travers la grande salle et me fit monter par un escalier qu'éclairait seulement sa lampe électrique portative. Il m'emmena dans une chambre où je retrouvais Martin Humain, assis dans un vieux fauteuil qui fumait tranquillement une cigarette. Dans le lit, un homme dormait profondément. Je compris pourquoi cet homme avait le sommeil aussi profond. Dans la chambre flottait une odeur de chloroforme. Dans une autre chambre, un autre homme dormait de même. « Ils en ont ainsi pour au moins 5 heures, » dit Martin Humain. « Nous avons le temps de visiter la maison. » Il portait, ainsi que Prosper, une lampe, car il ne voulait pas éclairer trop vivement les pièces afin que du dehors aucune lumière insolite ne vînt donner l'alarme, si quelque espion se trouvait aux environs, sachant la maison endormie régulièrement. Dans leur chambre, les peintres dont Martin Humain prenait la physionomie, réveillés, s'habillaient rapidement et s'apprêtaient à prendre la clé des champs. La maison était bien, comme nous le supposions, la grande maison du siècle du grand roi, aux salles immenses, admirablement décorées de boiseries sculptées, de tapisseries. Les meubles du temps, authentiques, répondaient au cadre. C'était bien la vieille demeure du grand seigneur, gardée en bon état d'autrefois. Nous fîmes une promenade artistique du plus grand intérêt, et il nous advint une aventure dont nous ne tirâmes que grâce à l'ingéniosité du roi des détectives.